Bonjour à tous, bienvenue dans le Goût du Monde. Installez-vous gourmands et gourmandes, curieux des recettes et d'histoires d'ici et d'ailleurs. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, régalade au programme, du bon à tous les niveaux, je vous l'assure. Bon au goût, bon pour le cœur et pour le corps. Vous savez combien nous aimons ici les épices et les greens, les légumes, le vert qui vous remplit le ventre. Notre invitée est une pionnière en la matière. Bonjour Ayaba Galba.
Bonjour Clémence.
Mama Ayaba, je crois que c'est un de vos surnoms aussi. Vous êtes blogueuse afro-vegan, formatrice, conceptrice de saveurs saines, d'une cuisine qui mêle bien des cuisines, en tout cas entre l'Afrique. Aussi dans la composition de ces cuisines, on est végétarien, on est vegan surtout, on s'approche d'un concept que vous avez appelé Ndolotosh. Alors, est-ce que je le prononce correctement déjà ?
Tout à fait.
D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire que Ndolotosh ?
Ndolo, ça vient du Douala, qui signifie amour.
D'accord.
Et touch, c'est penser. Et donc l'idée était de faire un jeu de mots comme la French touch, mais avec une notion africaine. Et pour la petite histoire, souvent mes amis me disaient « Mais qu'est-ce que c'est bon ? C'est quoi ton petit secret ?» Et je répondais fréquemment « Ma petite pincée d'amour ».
Vous êtes tombée il y a longtemps dans le véganisme, en tout cas cette approche de la nourriture végétale ?
Pas tant que ça, hein. Finalement ça va faire 4 ans. Bientôt. Et je pense que j'ai un parcours assez atypique, contrairement aux autres véganes qu'on pourrait croiser, puisque moi, c'est la terre, en fait, c'est le potager. Je me suis initiée au jardin créole, à la permaculture avec ma maman, en voulant préparer sa retraite. Je l'ai inscrite, en fait, dans une association, dans un jardin partagé.
D'accord, donc on est dans la région parisienne ?
On est dans la région parisienne, vraiment sur des projets socioculturels. À l'époque, je travaillais, en fait, dans un centre socioculturel. Et donc, je voulais préparer ma maman et j'ai sauté sur l'occasion pour qu'elle ait une activité quand elle sera à la retraite. Et mes grands-parents étaient agriculteurs. Donc, ma maman, en fait, a commencé à me transmettre ce savoir, à m'initier à ce savoir de la terre. Et en plongeant dans cet univers passionnant qu'est la permaculture, je jardine avec la lune.
D'accord.
Voilà, en respectant certains cycles de lune pour vraiment coller au mieux aux besoins et aux cycles de la terre et de la lune. Et tout doucement, en fait, je suis complètement tombée dans l'idée de la pharmacopée au naturel, commencer à se soigner avec de la phytothérapie, par les plantes, par les épices. Et l'un dans l'autre, ça m'a tout doucement fait glisser vers un re-questionnement, une autre dimension de comment je mangeais et comment je pouvais me soigner par le biais de mon alimentation.
D'accord.
Sans y perdre goût. Parce que forcément, je suis gourmande. J'ai beaucoup voyagé.
Donc, votre assiette comme médicament, c'est vraiment un vieil enseignement.
Oui,
ça.
C'est Hippocrate disait déjà ça, hein, que votre alimentation soit votre seul médicament. Et c'est finalement, on le retrouve dans beaucoup de cultures. La culture asiatique le prône beaucoup, l'Ayurveda. Dans la culture indienne,
on avait fait d'ailleurs une émission autour de l'Ayurveda et de la cuisine indienne végétarienne. Cependant, alors on a utilisé deux mots qui sont peut-être pas forcément accessibles à tous. Permaculture, c'est l'agriculture sans aucun ajout extérieur. Mmh.
Voilà.
La nature fait son travail.
Exactement, une forme d'agriculture raisonnée. On se rapproche de l'agroécologie, du respect de la terre et de laisser en fait finalement le sol et les plantations faire leur travail.
En fait, du bon sens. Maintenant, voilà. Végétarisme, être végétarien et être végane, comment est-ce que vous expliqueriez la différence entre ces deux courants ?
Alors, le véganisme, en fait, concrètement, c'est très simple, beaucoup plus simple que ce qu'on croirait. C'est aucun produit d'origine animalière. Moi, c'est vrai que dans mon approche, je suis pas du tout tombée dans le véganisme du jour au lendemain. Et d'ailleurs, je le recommande à personne pour des raisons de santé évidentes. Quand toute sa vie, on a consommé de la viande, quel que soit d'ailleurs l'arrêt et le changement alimentaire qu'on fait.
Tout ce qui est d'origine animale.
Tout ce qui est d'origine animale.
Ça va être le lait.
Le miel également.
L'œuf et le miel. Alors
voilà.
Ça, évidemment, puisque les abeilles font le miel. Donc, on enlève le miel. Et on pleure là, parce que nous, on aime beaucoup le miel. Cependant,
je vous avoue que ça a été plus difficile de bannir le miel que de bannir la viande. Parce que je considère profondément le miel comme finalement un médicament à part entière. D'ailleurs, certains miels ont des vertus que l'on recommande en cas de besoin. Mais c'est vrai que pour le coup, mon processus a été différent parce que mon premier arrêt a été les produits laitiers pour des raisons de santé. J'ai une peau en fait très sensible et j'ai depuis longtemps fait de l'eczéma. Et mon fils aussi, mon plus grand fils, fait de l'eczéma. Et en tentant tout simplement l'expérience de diminuer et après d'arrêter complètement ma consommation de lait, je me suis soignée en fait de mon eczéma.
D'accord, qu'on dit donc de la lactose auquel on peut être intolérant, voire allergique. Tout le monde est concerné par ces questions d'intolérance au lactose, intolérance au gluten. C'est ce qui conduit aussi beaucoup aujourd'hui certaines personnes à se tourner vers une alimentation végétarienne ou végane.
Oui, complètement. Parce qu'en fait, finalement, je ne dis pas que ces produits sont forcément mauvais. Moi, je suis contre toute forme de prosélytisme et je ne vais pas casser de vitrine ou de devanture de magasin. Mais le fait est que, si vous voulez, c'est les modes de fabrication qui posent un problème. Et c'est pareil finalement pour l'agriculture. Et c'est pour ça justement que j'ai fait ce glissement de terrain assez naturellement. C'est que c'est la façon dont on fait les choses, les processus, les process, tout cet aspect industrialisé qui finalement porte atteinte aux produits. Le gluten, il n'a pas toujours été mauvais. Pourquoi aujourd'hui du véganisme, j'en viens tout doucement, mais même vraiment très très sûrement, parce que je travaille énormément maintenant sur la conception d'une cuisine 100% sans gluten. Et c'est aussi parce que c'est des demandes qui me sont faites en message, en privé, et je réalise que vraiment les enfants, la nouvelle génération, et même des personnes qui du coup ne pensaient pas du tout être intolérantes, se découvrent intolérantes à 30, 40 ans, découvrent que certains maux qu'ils avaient viennent de la consommation de gluten de façon excessive. Ils ne comprennent pas parce que étant plus jeunes, ils n'avaient pas ces problèmes. Donc à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui a changé.
En tout cas, vous l'avez dit, on peut pas devenir végane du jour au lendemain. C'est d'ailleurs pas du tout ce que vous conseillez. Non. Vous allez nous donner un peu plus tard quelques conseils justement sur comment adapter son alimentation pour aller, si l'on le souhaite en tout
avec
cas,
plaisir,
petit à petit vers le véganisme. Vous, il a fallu aussi que vous appreniez alors la permaculture, donc l'agriculture, vous avez fait pousser des légumes.
Tout à fait.
Mais aussi à les cuisiner, à choisir lesquels. Enfin, il y a aussi cette question de super aliments qui sont bons pour la terre et bons pour le corps. Alors, comment est-ce qu'on fait le tri dans tout ça et surtout comment on cuisine et comment on se dit « je n'aurai pas faim ».
Déjà, on se rééduque parce que moi, je vous avoue que j'ai beau être française, être née en France, je ne connaissais pas le topinambour. Je connaissais pas non plus le panais. À l'âge
jusqu'à très récemment, beaucoup de gens ne connaissaient pas le
topinambour. Oui, mais c'est une honte. Parce que c'est tellement bon. Alors, le topinambour, je sais pourquoi, parce qu'il y a une histoire derrière, hein, qui est liée à la guerre
et
au fait que les gens aient beaucoup mangé de topinambour et qu'ils n'en pouvaient plus. Ils aient fait juste une overdose. Donc ça, j'entends. Par contre, un légume comme le panais, qui est vraiment très bon, qui se mange en frites, en chips, en purée. Enfin, vraiment, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec le panais. Je trouve ça dommage. Et moi, j'ai découvert ces légumes-là j'avais plus de 25 ans, vous voyez ce que je veux dire? Et quand on commence à travailler la terre, du coup, et qu'on cherche les bonnes associations pour que les plantes, du coup, se donnent un renfort, s'aident mutuellement, et qu'on plante aussi ces aromatiques pour pouvoir servir de pesticides, hein, de naturels contre les ravageurs, et qu'on voit vraiment toute cette alchimie prendre vie, parce que clairement, moi, je vous le dis sans aucune honte, hein, j'ai eu l'impression de donner la vie, et je trouvais ça juste, mais je me sentais trop reconnaissante de pouvoir faire ça. Et c'est ces nouveaux légumes aussi français qui m'ont amené à me repositionner, c'est-à-dire que je suis en France. Certes, j'aime la cuisine africaine, j'aime la cuisine caribéenne et j'ai un réel penchant pour la cuisine indienne. C'est des cuisines qui ont bercé mon enfance et que j'adore cuisiner, que j'ai appris en plus dans les terroirs et dans les pays en question. Mais si je suis le processus logique de la permaculture, je me dois aussi de cuisiner des légumes d'ici. Donc c'est comment à un moment donné, je mêle vraiment le meilleur des deux. Dire le meilleur d'ici avec des légumes de saison, avec une consommation raisonnée. Essayez, parce que c'est vrai que oui, il y a un souci au niveau du bio, mais moi je parle surtout de la bio. Mmh. Respecter la bio, c'est-à-dire que c'est clair que manger des fraises en plein mois de novembre ou décembre,
c'est beaucoup de bon sens cependant. Alors je m'amuse du fait que vous ayez parlé de ces légumes oubliés et qui sont restés dans les esprits et les mémoires attachés à la guerre. Parce que c'est souvent perçu comme ça en fait. Vegan ou manger végétarien, ne manger que des légumes, c'est aussi parce qu'on n'a pas tellement de sous. C'est souvent lié aussi à une période pas très agréable. Si tu manges que des légumes, c'est t'as pas de quoi acheter de la viande. On a du mal à aller contre et à l'encontre de cet a priori. Cependant, quand on mange des légumes et quand on mange vegan, est-ce qu'on a, si je repose ma question, est-ce qu'on a faim?
Non, on n'a pas faim. Si on sait avoir une assiette, des assiettes variées, qui respectent colorées, parce que ça joue beaucoup aussi sur cette sensation d'être repu, le fait d'avoir, déjà les épices aident à être repu,
voilà,
et à être rassasié.
C'était ma question, vous voyez, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'assiette végane, on joue sur quoi pour la rendre
les épices,
gourmande, jolie, qui donne
couleurs,
envie et qui remplit le ventre?
Alors, les épices, les couleurs, les textures. Voilà. Et la diversité, essayer de varier au maximum et encore une fois manger de saison. Voilà, moi hier, je me suis fait un... Comment on appelle ça? La grille du four, sur laquelle, en fait, j'ai fait tout mon repas du midi. Et après, je l'ai transformé en ce qu'on appelle le bowl, là, qui sont super
D'accord,
à la mode.
D'accord, donc c'est un bowl où voilà. On met plein de choses
voilà.
dedans.
Et donc, je me suis fait, j'ai redécouvert les choux de Bruxelles. Et alors là, je peux vous dire que j'ai détesté. Mais j'en ai voulu, j'étais déçue. J'ai dit, mais pourquoi à la cantine, on lui fait ça? Moi, j'ai connu près de 15 ans de cantine scolaire, vous voyez. Les choux de Bruxelles, c'était mon cauchemar. C'était mon ennemi numéro un. Et il a fallu attendre cette année pour que vraiment je fasse les marchés et que je tombe sur des choux de Bruxelles frais et que je sois curieuse et que je me dise, vas-y, faut quand même que toi-même tu te challenges et que tu redécouvres aussi certaines saveurs, hein, que tu restes pas dans ta zone de confort. Et donc j'ai acheté des choux de Bruxelles et j'ai tout fait rôtir en fait. Donc j'ai coupé en deux mes choux de Bruxelles, je les ai marinés avec des épices, avec des huiles infusées aussi africaines. Donc des huiles infusées au poivre et à l'ail, des mélanges d'épices, alors surtout pas de bouillon. Hein,
mélange d'épices que vous proposez d'ailleurs, parce que j'ai votre livre qui s'appelle On mange Afrique vegan, publié chez Afro Cooking. Et alors on a donc ce mélange de teranga, de Kilimanjaro. Le teranga, il contient quoi, par exemple?
Alors, le teranga, c'est vraiment, en fait, je l'ai appelé comme ça parce qu'il contient les épices basiques qu'on utilise en Afrique de l'Ouest. Donc, il va avoir un peu de piment, un peu de poivre, du sel.
Du poivre du kanja.
Par exemple,
un peu de...
Par exemple.
On a quoi d'autre comme petite épice qu'on a peu l'habitude d'utiliser en France? En abordant cette cuisine, on s'ouvre complètement les yeux.
Oui, parce que par exemple, moi, j'ai lors de mes voyages sur le marché, j'ai découvert le PB, que vous connaissez bien, parce qu'il me semble que vous avez fait une émission sur le thème.
Sur le PB, donc cette épice...
Qu'on appelle ici fausse noix de muscade, ou je préfère lui donner le mot noix de muscade du Gabon, parce que je trouve que c'est un peu péjoratif, le terme fausse noix de muscade, qui rappelle l'odeur... et la saveur de la noix de muscade, mais avec un petit piquant, un petit coup de peps supplémentaire. Donc, faut pas avoir la main trop lourde, sauf si on prépare certains plats dont vraiment c'est la spécialité, comme la sauce noire, dont on parlait récemment. Mais c'est clair qu'il faut pas hésiter à mettre des épices, à mettre de la couleur. Et donc, pour revenir sur ce plat que j'ai fait hier, donc j'ai mis des champignons de Paris, des choux de Bruxelles. J'ai fait une purée vitelotte pour que mes enfants aussi puissent en profiter. Voilà, purée de pommes de terre vitelotte, donc les belles pommes de terre violettes. Donc vraiment, les enfants, ils sont genre juste estomaqués. Je les ai fait en frites et en purée. Et j'ai composé ça également avec de la viande que j'avais déshydratée, que j'avais ramenée du Bénin. Et donc, il se garde relativement assez longtemps et que j'ai réhydraté et qu'après, j'ai fait rôtir pareil avec l'huile et les épices. Alors après, je joue sur les épices, je mets pas toutes les mêmes épices sur les différents légumes. Pour les champignons, je vais rester sur quelque chose qui va rappeler quand même les champignons, le poivre, le sel, l'ail. Pour mes, par exemple, mes choux de Bruxelles, j'ai été sur un gros sel avec infusé avec de l'hibiscus.
D'accord.
Donc du bissap, romarin, gros sel, rose d'Himalaya et hibiscus. Voilà, j'essaye de marier les saveurs et de marier aussi les textures. Parce que du coup, le chou de Bruxelles, on n'est pas sur la même texture que la purée de vitelotte. Mais quand vous mettez tout ça dans l'assiette, c'est tellement coloré, c'est tellement beau à voir qu'en fait, vos yeux se remplissent.
On mange quand même,
votre ventre se remplit. Et puis aussi, je suis friande de bonnes sauces bien onctueuses pour être en adéquation avec mes origines.
Alors, on a bien sûr parlé des légumes. Alors, ceux les premiers qui nous viennent à l'esprit. Et il y a un légume, une légumineuse qu'on oublie souvent, pourtant elles ont une part très importante dans cette cuisine végétarienne et végane. Une que vous appréciez assez particulièrement, je crois, vous n'êtes pas la seule, c'est le coqui. Le coqui, c'est la cornille, donc c'est ce haricot avec un petit œil noir, on l'appelle black eyed peas en anglais. Et cette fameuse cornille, figurez-vous, elle est très chère à Alain Foka, qui présente Archives d'Afrique et le débat africain sur RFI, souvenir d'un partage au moment d'un repas de fête.
Je viens d'un coin de montagne du Cameroun et là-bas on mange du coqui. Du coqui, c'est de la pâte de haricot blanc avec de l'huile et c'est absolument agréable. Ça se mange avec du plantain, de la banane plantain comme on dit ici.
Ce sont des haricots bien particuliers.
C'est du haricot blanc que l'on récolte en décembre. Ce haricot est d'abord mouliné, ensuite on le trempe dans de l'eau pendant plusieurs jours. Une fois que c'est mou, on l'écrase, ça devient une pâte. On y met un peu d'huile rouge, d'huile de palme, avec quelques épices. Et on le fait bouillir dans des feuilles de bananier, qui lui donnent un peu de saveur supplémentaire, pendant plusieurs heures. Et après ça, on a un gâteau tout rouge, qui est très très agréable, et qui se mange avec de la banane plantain ou de la patate douce. ou aussi du miondo qui est de la pâte de manioc. Voilà.
Qui est-ce qui vous le préparait, ce coquille?
C'est essentiellement ma mère qui me le préparait, mais j'adore faire de la cuisine, donc j'en ai fait quelques fois ici à Paris.
Le coquille d'Alain Foka préparait sa maman, Ayaba Galba, vous connaissez bien le coquille.
Ah là là, un de mes mets préférés du Cameroun, et j'en ai fait en plus pour les fêtes.
Ouais, non seulement c'est beau, en plus c'est très très bon. Moi j'ai posté justement sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Facebook du Goût du Monde, une photo de ces coquilles, en disant si vous avez des recettes à partager, n'hésitez surtout pas. Et ben alors là, avalanche de commentaires et de recettes partagées. En voilà une que je vous propose d'écouter, c'est celle de Mandio Camara. Il est originaire de Guinée-Conakry et il habite à Praia au Cap-Vert.
Pour faire notre recette, nébé, je vais le faire avec l'œuf, sans viande et sans poisson. Mais il faut beaucoup d'haricots, on appelle bongolo en créole, un kilo c'est bon. On le trempe dans l'eau pour bien le cuire. On le met dans l'eau 30 ou 40 minutes après. On enlève, on met dans une marmite, dans de l'eau. Après, on met dans le four. On le ferme pour ne pas l'évaporation de la température. Ce fruit, on ferme, on le reste au feu. Maximum 30 minutes, c'est bon. Après, on commence à préparer la sauce à part. C'est une sauce que nous préparons avec maintenant de l'œuf. On le casse un peu, on le met dans l'huile. Oui, on frit l'œuf. Après avoir frit, on enlève, on le garde. On met du sel dans la sauce, on met... L'oignon, il y a la patate douce, il y a la patate, on les mélange ensemble.
Mandio Camara, donc, pour sa recette avec sa patate douce rouge, qui était une carotte des idées et un débat même. Ça a suscité un débat, figurez-vous, à Yaba, au Burkina, parce qu'on m'a parlé de la place incontournable de ces niébés, parce que c'est leur nom également. Elle est majeure, le niébé, 200 francs CFA pour une bonne recette et une bonne galette de niébé, nous racontait Camille Caboret en disant c'est incontournable. Ça se vend à tous les coins de la rue, à Ouagadougou, on le mélange avec tout, de la farine de blé, de riz, en passant par les spaghettis et l'attiéké. Bref, ce niébé est incontournable. Et Anne Zwangena, à Bobo Dioulasso, nous donne également sa recette de haricots cornis mélangés avec du maïs blanc.
On appelle ça ici ben sarbo. On fait ça avec le haricot pilé. On enlève le tronc. Ensuite, on met ça sur le feu avec de l'eau. On bout jusqu'à ce que ça commence à fondre. Mais on doit d'abord ajouter de la potasse pour que ça ne donne pas de ballonnement.
Très bien.
Quand ça commence à fondre, il y a la farine de maïs blanc de préférence. On incorpore dedans en tournant avec une spatule. Quand la pâte va devenir consistante, on enlève maintenant avec une louche. Voilà. Et on utilise aussi de l'huile dans la louche là pour enlever. Sinon, ça va coller à la louche là. On enlève comme ça, met dans le plat. On commence à manger. On mange ça un peu chaud. Sinon, quand ça se refroidit là, c'est pas trop bon.
On met pas un piment, on met pas de l'oignon.
On met rien du tout, on laisse à compléter, c'est très bon.
Eh bien, je vous crois sur parole et je vais tenter.
C'est très bon, je vous assure.
Anne Zwangena, vous me disiez, Ayaba, que en fait, cette recette, elle est assez courante, mais alors donc, au Burkina, on cuit le maïs et pas au Cameroun, c'est ça?
Le coquille, en fait, la cornie, quand vous préparez le coquille, en tout cas la camerounaise, une fois que vous avez la tâche la plus laborieuse, en fait, c'est d'enlever toutes les peaux de chaque haricot. Donc une fois que vous avez enlevé toutes les peaux à l'ancienne, hein, en pilonnant avec le pilon comme je l'ai appris en tout cas moi au nord du Bénin, parce que j'ai appris cette recette au Bénin et non pas au Cameroun, vous mixez tout simplement avec de l'eau et du sel, mais cru du coup la cornie. On ne la fait pas cuire la cornie. En fait, c'est après que cette mixture, hein, cette pâte, on la bat pour la ventiler, pour faire entrer de l'air dans la pâte. Et puis après, vous la mettez dans des feuilles de palmier et ça cuit vapeur enfermée. Mais du coup, à la base, on est sur quelque chose de très simple qui est cru et qui est juste mixé avec de l'eau et du sel. Et puis, bien sûr, de l'huile de palme.
Est-ce qu'il ne faut pas qu'on les laisse tremper, ces cornilles, cependant?
Si, pour faciliter le nettoyage et enlever les peaux facilement, je recommande de les laisser tremper la veille, toute la nuit. Ou si vraiment on a oublié, la petite astuce, mais bon, c'est peut-être un peu moins bien, c'est de les laisser tremper une demi-heure dans de l'eau bouillante. On fait bouillir de l'eau, on récolte l'eau bouillante et puis on met les haricots dans l'eau chaude, très chaude, pendant une demi-heure et ensuite on peut les pilonner, les taper. Sinon, la veille au soir, tranquillement, avant d'aller se coucher, on met dans l'eau froide et puis le matin, on s'en occupe.
D'accord, on a aussi des galettes au Togo, je crois.
C'est la même chose en vérité, hein, au Togo et c'est pareil, c'est juste que ça porte pas le même nom. Au nord du Togo et nord du Bénin, ils appellent ça lélé. ou allélé, il me semble, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas, c'est ce que m'a dit un follower sur Instagram. Je demandais comment ça s'appelle dans votre pays.
N'hésitez pas à nous dire si on se trompe de nom.
Donc, merci de m'avoir fait un retour par rapport à ce mets de coquille, mais je suis assez surprise de voir que ça existe finalement dans plein de pays. J'ai cru comprendre aussi qu'en Côte d'Ivoire aussi, on consommait beaucoup la cornille et qu'on en faisait également les beignets coquilles, parce qu'on fait aussi les beignets de cornille.
Tout à fait.
Apparemment, en Côte d'Ivoire aussi, on les fait comme au Cameroun, c'est la même recette.
Les beignets coquilles.
Voilà.
Eh bien, figurez-vous que sur la page du Goût du Monde, on aura aussi une recette de beignets coquilles que vous pourrez retrouver, vos auditeurs de RFI, que nous a donné Agnès Gaël, qui est traiteur en région parisienne et qui nous décrit donc ça. Et elle utilise du PB, figurez-vous, pour ses coquilles. Alors évidemment, cette cuisine, parce qu'on là, on tourne autour depuis le début de cette émission, on a parlé de l'Inde, on a parlé de l'Afrique, évidemment. Vos racines, vous êtes une Africaine de la Caraïbe,
hein,
on peut dire. Parce que vos racines se trouvent où, à Yaba ?
À Marie-Galante. Enfin, les racines de ma mère se trouvent à Marie-Galante. C'est vrai que je suis très, très attachée à mon île, même si elle n'est pas natale, puisque j'y allais tous les ans. Depuis mes un an jusqu'à ma jeune vingtaine. Et j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur cette île, en famille, dans la maison familiale. Et c'est une île qui est beaucoup plus, on va dire, traditionnelle, ou en tout cas authentique. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'allais encore sur des charrettes, hein, avec les bœufs de mon grand-père ou de mon oncle. Et c'est vrai que l'authentisme de Marie-Galante rappelle cette authenticité qu'on peut retrouver en zone rurale, dans les pays d'Afrique.
J'ai grandi dans tes bras, ton soleil a guidé mes pas. J'ai voulu être roi, car tu es reine ici-bas. Loin de toi, perdu sous les frimas, j'entends ta voix. Si je ferme les yeux, tu es là. Élégante, insouciante, c'est tout Marie-Galante.
Ayaba, c'est vous qui avez choisi cette chanson de Patrice Fulman qui s'appelle Marie-Galante. Pourquoi ce choix ?
Ah là là, c'est déjà quand je l'entends, tout de suite les larmes me montent aux yeux. C'est une des chansons que j'écoute le plus à la maison, surtout quand, comme on dit en créole, je suis en limbé. J'ai un petit coup de mou, un petit coup de blues que le pays me manque. Et en fait, j'adore cette chanson tout simplement parce que Patrice Fulman est dans un métro parisien, donc voilà, métro boulot dodo, et puis il voit une publicité touristique de Marie-Galante, et là il s'évade dans ses songes de lui enfant, et il compte en fait les spécificités de cette très belle île, et on y voit en fait à tour de rôle toutes les spécialités vraiment mais vraiment marie-galantaises. Donc on voit la fabrication et la préparation de des cassaves, qui sont des galettes faites de la manioc fourrée avec de la confiture de noix de coco. On y voit également un monsieur qui prépare son sirop batterie à l'ancienne.
Donc
le sirop batterie, c'est le sirop du sucre de canne brut. C'est le sirop qui est extrait du sucre de canne, puisqu'on a forcément Marie-Galante pour son histoire, le rhum, mais aussi les usines de sucre. Hein. Et donc voilà, et le sirop batterie, c'est vraiment une spécialité marie-galantaise, outre le rhum et les cassaves. Et ça, c'est vraiment toute mon enfance, mais on y voit aussi les parties de domino des anciens. Et c'est vrai que quand vous avez passé les vacances là-bas, ce clip et même les paroles vous renvoient vraiment
au pays. C'est la saudade. Ayaba, c'est pas un prénom qui est donné. En fait, on parlait avec Eric Camien qui a le club RFI. Il me dit, mais Ayaba, ça c'est un prénom qui a été choisi. Déjà, ça a un sens. Ça veut dire quoi, Ayaba?
C'est un prénom qui m'a été donné. Et Ayaba, dans la langue, donc en fond, moué, de la personne qui me l'a donné, ça veut dire reine-mère. Oui, rien que ça.
Mais donc, ça a été donné intentionnellement aussi.
Oui.
C'est se positionner aussi par rapport à une histoire et une identité que de prénommer Ayaba.
Par rapport aussi à ma mission, à ce que je fais, puisque du coup, j'essaye vraiment d'être dans une approche de la cuisine gourmande, certes, authentique au maximum, même si je fais, ça m'arrive de réinventer parce que je me le dois de par le syncrétisme de ma cuisine et de mes origines.
Donc le mélange, hein,
voilà, le mélange,
on met tout,
voilà,
on mélange,
la fusion. Voilà. Mais c'est vrai que j'essaie d'avoir quand même une cuisine qui ressemble à celle de nos moments. en tout cas quand c'est pas dans le plat en tant que tel, dans la préparation. Et puis donc le côté maman, puis le côté la reine mère, en fait, si vous voulez, c'est tel qu'on la perçoit dans la tradition africaine, c'était la guérisseuse, c'était la prêtresse, donc le guide spirituel, et puis c'était aussi la maman, la mère nourricière. Et donc c'est comment, dans le cadre de mes fonctions, je tiens ces différents rôles de guérisseuse, de mère de famille, parce que je suis aussi mère de famille, et de guide spirituel, pour prôner certes ma façon de voir les choses, mais sans être dans un prosélytisme,
pour évangéliser, en fait, expliquer, partager,
voilà, juste partager, sans forcer les gens forcément à faire le pas d'eux. Souvent les personnes me disent je serais pas capable d'arrêter le poulet, je serais pas capable d'arrêter la viande. Je leur dis, si tu te sens incapable de les faire, il n'y a pas de problème. Essaye juste à ce moment-là, pourquoi pas, d'intégrer peut-être une fois par mois 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne hydrique, où tu vas arrêter, tu vas mettre un peu ton estomac au repos, tu vas éviter de consommer de la viande, peut-être des produits laitiers, juste 3 jours. Consommer plutôt liquide, consommer, mettre au repos ton estomac. Et si déjà tu arrives à faire ça, tu as déjà fait un grand pas.
You may write me down in the history with your bitter twisted lies. You may trod me down in the very dirt, and still like the dust I'll rise. Does my happiness upset you? Why are you blessed with gloom? 'Cause I laugh like I've got an oil well pumping in my living room. So you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes. And I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Out of the shacks of history's shame, up from a past rooted in pain. I'll rise, I'll rise, I'll rise, rise, rise. Now did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops weakened by my soulful cries. Does my confidence upset you? Don't you take it awful hard. 'Cause I walk like I've got a diamond mine breaking up in my front yard. So you may shoot me with your words, you may cut me with your eyes. And I'll rise, I'll rise, I'll rise,
rise de Ben Harper sur RFI, un poème à l'origine de la poétesse, écrivain et artiste Maya Angelou, Margaret Johnson. Un clin d'œil à vous, notre invitée, Aya Bagalba, la pétillante et pionnière mama afro-caribéenne, vegan, Ndolo Touch, c'est donc votre concept. C'est une touche d'amour partagé que ce concept. Vous avez fait d'un des conseils de Maya Angelou, qui a écrit donc ce poème, I'll Rise, une de vos devises, quand tu apprends, enseigne, quand tu reçois, donne.
Tout à fait.
On est d'accord ?
Tout à fait, parce que vraiment l'important pour moi, c'est de transmettre. Déjà, de par mes anciennes fonctions, j'ai toujours été guidée naturellement. Je pense que c'est une vocation et j'avais même songé pendant une période de ma vie à devenir enseignante pour après finalement me raviser. Mais c'est vrai que j'ai à cœur cette notion de transmission. De transmission et de legs, et surtout de ne pas laisser mourir en fait ces savoirs ancestraux. Et puis en intégrer aussi de nouveaux, mais vraiment de faire en sorte que vraiment ce cycle ne se boucle pas, mais se perpétue. Et c'est vrai qu'on a tendance dans la cuisine à oublier certaines choses, et heureusement de plus en plus de recherches et d'écrits se font pour qu'on puisse retrouver des traces, et puis aussi les émissions comme la vôtre, où on se rend compte que la cornille finalement porte différents noms, des plats portent différents noms, mais ce sont les mêmes. Et donc ça donne un lien conducteur à tous ces pays d'Afrique qui pourtant ont une identité différente. Et pas tant que ça, quand il s'agit du domaine de la cuisine.
Est-ce que c'est un domaine, justement, il faut toujours rappeler ça, regarder autour de vous, regarder ce que faisaient vos grands-mères, regarder ce que faisaient vos anciens. Oublions un petit peu toute cette modernité et regardons autour de nous pour tous ces produits. Par exemple, quand je suis végane aujourd'hui, je peux faire un hamburger, je peux aussi adapter toute mon alimentation végane en une forme plus moderne, parce que c'est souvent ça qu'on reproche aussi, on se détourne un peu parce que la ruralité c'était avant, on est dans des zones urbaines maintenant, est-ce qu'on peut être végane dans une zone urbaine, est-ce que ça a une cohérence pour vous ?
C'est indispensable. Je me rappelle qu'au We Eat Africa où vous étiez, le chef Anto a insisté sur le fait qu'avant de vouloir moderniser, faut-il encore déjà connaître nos basiques. Et je pense que vraiment, moi c'est ce qui me plaît, et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que j'en suis là, c'est que je suis une globe-trotteuse dans l'âme. J'ai fait plusieurs pays d'Afrique, j'ai visité aussi les États-Unis, le Canada, j'ai été en Inde. Donc voilà, j'ai roulé ma bosse et j'ai eu la chance sur mes différents parcours à chaque fois d'aller en zone rurale et de rencontrer du coup ces femmes d'origines différentes et finalement qui concevaient la cuisine de façon assez semblable et dans la préparation et dans le partage. Souvent, elles vous font d'abord vous manger l'invité et ensuite elles mangent ce qui reste. Souvent, elles rechignent même à vous laisser rentrer en cuisine. Et puis, quand elles voient que finalement vous êtes vraiment intéressé, que vous avez cette chance de pouvoir les assister et d'apprendre, moi je le vois presque de l'ordre d'une bénédiction, de pouvoir vraiment apprendre en zone rurale et réapprendre surtout. Après, le burger vegan, si vous allez sur mon profil Insta, vous allez en voir, hein, y a pas de souci. Il y en a même un dans le e-book, un burger afro-vegan
dans
express
votre livre, ouais.
aux haricots rouges. Donc oui. J'aime ça, c'est sympa, ça plaît aussi aux enfants, donc pour moi c'est une façon aussi de séduire, on va dire, les personnes urbaines qui ont malheureusement cette tendance aussi à être dans le pressé, dans le fast. Et moi je suis plutôt sur le slow food. Les haricots rouges, ça prend du temps, les légumineuses à digérer.
Donc on peut manger bien, on peut manger vite, tout en mangeant sainement et vegan. Question concrète et très pratique, je suis dans ma cuisine, j'ai des placards, qu'est-ce que je dois trouver dans mes placards, les incontournables, les très importants là que je dois avoir pour pouvoir cuisiner des repas?
En incontournable, alors on va commencer par les légumineuses, l'haricot rouge. Cuisine vegan, forcément lait de coco. Puisque c'est un bon substitut, on va dire, naturel. Et pour le coup, là, on parle vraiment de lait et pas de boisson végétale. Et ça coûte quand même moins cher. En plus, on peut le faire soi-même. Je dirais de l'avoine, parce qu'on peut aussi faire du lait d'avoine et que l'avoine aide énormément dans tout ce qui est préparation du simili carné. Moi, je remplace l'avoine traditionnelle, puisqu'on s'adresse aux Africains, par le gari. Et d'ailleurs, dans mes recettes, à chaque fois que vous voyez gari dans le e-book, dans le livre digital, vous pouvez souvent le remplacer par de la farine d'avoine ou de l'avoine concassée. Mais j'ai vraiment essayé d'adresser ce e-book aux Africains et même dans l'écriture, à chaque fois, j'ai essayé de proposer de façon manuelle au cas où on n'avait pas justement à disposition le robot, le blender, etc.
Parce que ça, c'est vraiment quelque chose auquel nous sommes souvent confrontés. Oui. On n'a pas toujours un robot, un mixeur
tout ça.
Et donc, en revanche, on a un pilon, ça c'est voilà. Facile. Donc, il faut toujours avoir cette idée-là.
Oui, le pilon, le mortier, le pilon, en tout cas un plat creux. Mais je pense que voilà, on est sur les légumineuses, donc ce soit le cornis,
les lentilles
rouges, parce que souvent les gens disent oui mais les légumineuses c'est long à cuire, mais les lentilles corail cuisent très très vite.
10 minutes.
Voilà. Le fonio, si on sait pas le faire, on peut le remplacer par le quinoa. Moi je suis une grande fan du fonio, le quinoa à l'africaine qui en plus est ancestral.
Si je me trompe pas, d'ailleurs dans votre livre j'ai trouvé une recette qui a l'air juste délicieuse. C'est la fonio sauce baobab au lait de coco. Alors ouais. Là on a tout là.
Ouais, exactement.
Hein, la sauce baobab, on prend quoi? Du lait de baobab?
Non.
Ou
vous prenez
du sirop,
soit la poudre.
Voilà.
Soit la poudre, soit les bonbons, ce qu'on appelle les bonbons de baobab, les bonbons de pain de singe, ou la poudre. Poudre, c'est plus facile, hein, ça demande moins de travail. Et du lait de coco, et finalement, cette sauce, elle est assez facile à faire. Ce qui va vous prendre le plus de temps pour réaliser, cette sauce, ça va être la découpe de légumes.
D'accord.
Une fois que les légumes ont été revenus avec, justement, le mélange d'épices que je propose, le teranga, ils ont sauté. Vous y mettez le lait de coco, le bouillis à la fin qui va un petit peu encore plus lier la sauce. Et c'est juste exceptionnel.
Parce qu'il y a aussi pour les nostalgiques du mafé qui disent mais attends, oui. Mon mafé, mon pauvre mafé, qu'est-ce qu'il va devenir? Eh bien, il y a sauce d'arachide aux épinards.
Oui.
Alors là...
Il y a l'équivalent du mafé aux épinards qu'on peut aussi utiliser si on veut utiliser des produits africains qu'on n'a pas d'épinards. Donc il y a les épinards africains. Maintenant, on peut utiliser par exemple vraiment quelque chose que j'adore, les feuilles de patates douces.
Ah, alors là, vous pouvez pas me dire. Parce que sauce de feuilles de patates douces, j'ai un auditeur, en fait, qui est un fidèle du Goût du Monde qui depuis plusieurs semaines nous écrit sur Facebook et qui partage des recettes comme ça. Alors il y a la recette de viande, mais il y a aussi une recette de feuilles de patates douces qu'il a tenu à partager avec nous. Alors on l'a appelé, il s'appelle Kalilou Terra, il habite Cotonou, il est d'origine malienne. Je vous propose de l'écouter.
Tout d'abord, on commence par couper les feuilles de patates douces. Et ensuite, on verse de l'eau bouillie dessus. Et on laisse pendant environ 5 minutes. Donc, pendant ce temps, on met de l'huile rouge, c'est-à-dire de l'huile de palme, dans une marmite. Et on attend pendant environ 2 minutes. Avant de mettre les ingrédients comme l'oignon, les tomates, le sel, les feuilles de laurier, du poivre en poudre, etc., etc. On laisse mijoter pendant 2 minutes environ. Après avoir ajouté les ingrédients, on ajoute de l'eau, environ 1 litre. Puis on ferme la marmite, on laisse cuire un peu. Pendant ce temps, on retire les feuilles de l'eau, là où on l'avait mis avec de l'eau bouillie, et on les lave soigneusement. Et ensuite, on verse le feu dans la marmite contenant la sauce. Et on ferme pendant environ 30 minutes comme ça. Et ensuite, on ajoute les feuilles d'oignon et un peu de gombo, mais pas trop de gombo, un peu de gombo seulement.
Feuilles de patate douce et gombo alors.
C'est ça. Et ensuite, on ajoute du soumala. Soumala, ici à côté, on appelle ça apiti. C'est fait à base de noyau de néré. Et ensuite, on laisse le mélange sur le feu pendant environ 20 minutes. Et ensuite, on ajoute de l'huile d'arachide. Et après, on retire le feu. Pendant ce temps, on coupe les légumes frais. On a les oignons, les tomates, les concombres. Si possible, des piments verts et rouges aussi. Et c'est tout, je pense.
Donc, on a une salade d'un côté et ensuite la sauce feuille et les gombos.
Oui, la salade, c'est pour décorer quoi. Cette sauce, elle peut être utilisée pour manger aussi bien du riz que de la pâte. Je le mange avec les pâtes de maïs.
Ah oui, ça doit être très bon, ça.
Oui, oui, très bon même.
Il s'appelle comment, ce plat, Kalilou?
Sauce de patate douce. Au Mali, ils appellent saga-saga.
D'accord, bah oui, saga-saga.
Ici, à côté, on dit légumes de patate douce.
Je ne vous dis pas merci parce que maintenant, j'ai très faim.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Ayaba. Kalilou parle de deux choses dans cette recette, du soumbala. Vous m'avez dit, alors pendant qu'il était en train de décliner sa recette, vous m'avez dit, oh là là, le soumbala, il faut savoir s'en servir.
Oui, alors c'est fort, mais ça apporte vraiment cette nuance et cette différence à un plat. Moi, je sais que quand je finis mon mafé, la dernière touche que je mets, alors j'ai deux trucs. J'ai mis de la poudre de gombo séchée, qui du coup va lier la sauce, mais lui donner vraiment une texture particulière. Alors là aussi, il faut y aller vraiment avec parcimonie pour pas se retrouver avec une sauce gluante. Et j'y mets un peu de soumbala. Et là, vraiment, ça apporte cette touche qui fait toute la différence dans le mafé ou en tout cas la sauce arachide. Faut savoir aussi qu'en fonction de où vous êtes au Mali, que vous soyez en zone rurale ou en ville, enfin, il y a 50 000 sauce aux arachides, ne serait-ce qu'au Mali en fait.
C'est pour ça que c'est bien la sauce arachide, parce qu'on peut la décliner de village en village et de famille en famille.
Exactement, et dans la sauce par exemple que je propose dans le e-book, on sent pas en fait le manque de viande parce que vous utilisez des ignames, vous allez peut-être y mettre du plantain vert, vous allez y mettre de la patate douce, pourquoi pas, on est en France, pourquoi pas y mettre un peu de butternut, vous voyez ce que je veux dire?
Donc on peut apporter des textures différentes. Alors il y a d'autres feuilles qu'on aime beaucoup, alors on a découvert lors d'une émission du Goût du Monde autour des feuilles justement et du gombo. Nous avions deux invités, dont une chef brésilienne, Alessandra Montagne, avec Alexandre Belaola, notre Camerounais. Et alors, Alexandre explique donc que ces feuilles de manioc peuvent se manger.
Les feuilles de manioc, quand vous les avez achetées, vous les trempez dans de l'eau, après vous les essorez, vraiment vous tassez, vous retirez toute l'eau.
D'accord.
Et la première recette toute simple, c'est que vous pouvez faire votre base aromatique, oignon, ail, gingembre, que vous faites revenir et vous plongez les feuilles dedans. Ça peut déjà se manger comme ça. Vous ajoutez la protéine que vous voulez, une petite pointe d'arachide dedans, et ça prend une autre tournure. Et ça n'a rien à voir avec le premier goût que vous aviez. Et maintenant, il y a une autre recette qui peut être toute simple, ça peut se faire avec du jus de noix de palmiste. Dans le palmiste, on a l'huile de palme, on a le jus de noix de palmiste, qui sont deux choses complètement différentes.
Bien sûr. Et qu'on
trouve également au Brésil.
Oui, on trouve au Brésil, oui. Mais c'est pas du tout le genre de cuisine que j'ai déjà mangé. Alors c'est très intéressant et c'est très inspirant.
Et c'est qu'on peut dériver ça avec plusieurs autres feuilles. Hein. Ça, c'est l'Afrique centrale. Ça, c'est le Congo, où on D'accord. l'appelle le saka-saka ou le pandou.
Ravitoto, à Madagascar.
Ravitoto aussi, à Madagascar. Aussi. Et là, on prépare aussi avec du lait de coco. Parce que là, on retrouve les insulaires, comme au Brésil, tandis qu'en Afrique, en dehors de ceux qui sont sur les côtes, c'est rare dans le continent, c'est-à-dire du côté de l'Atlantique, D'accord. qu'on utilise le lait de coco. Mais tandis que du côté de l'océan Indien, beaucoup travaillent avec du lait de coco, avec les influences qui venaient d'Inde et un peu partout. D'accord. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, non.
Donc, le lait de coco, on en a parlé un tout petit peu à Yabor en début de cette émission. Un incontournable, le lait de coco.
Totalement. Surtout dans ma cuisine, parce que, comme je l'expliquais, étant donné que je suis afro-caribéenne et que du coup, j'ai une cuisine qui se rapproche du mouvement Rastafari, la cuisine qu'on appelle Aïtal. Un Aïtal, en fait, concrètement, ce sont des légumes qui sont préparés mariné, voilà, revenu, et qu'on allonge avec ce fameux lait de coco qui apporte toute l'onctuosité à la sauce et qui du coup est juste somptueuse sur une céréale, du riz, du fonio, peu importe. C'est pour ça que je l'ai présenté avec le fonio, pour que du coup là, ce plat-là, de la sauce bouillie au lait de coco et le fonio, pour le coup, c'est vraiment une innovation totalement Ayaba, où je fais ce parcours, ce pont culturel entre l'Afrique et la Caraïbe.
C'est le plat de le touch par excellence.
La vie vient n'est qu'à pousser sous crêpes soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. La vie vient n'est qu'à pousser sous crêpes soleil, même si la terre, c'est pas faute malhérée. La joie pas fait bon, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie. La joie pas fait bon, nos poches malhérées, nous fait pour nous vivre sous la terre bénie.
La Vivienneck de l'américaine Levla Makala du créole sur RFI, tout frais, tout nouveau dans le goût du monde. Frais, saine et bonne, comme la cuisine végane de notre invitée Ayaba Galbas, auteur entre autres d'un livre publié aux éditions... Aidez-moi.
Afro Cooking
sur la cuisine africaine et végane que je vous conseille. Il y a plein d'astuces, des entrées, des épices, des concoctions, des trucs extraordinaires. On a parlé un petit peu de maïs très brièvement, de feuilles de manioc. C'est sauce feuilles, c'est quand même absolument délicieux. Et alors il y a forcément le gombo. Vous avez parlé du gombo séché. Le gombo, c'est un peu l'ingrédient un peu magique, non ?
Mm-hmm. Moi, il a tout simplement remplacé l'amidon de maïs, dans ma cuisine, puisque le gombo a énormément de vertus et il a le même effet liant que pourra avoir l'amidon de maïs. Et donc, j'ai préféré aller sur le gombo séché. On peut faire beaucoup de choses avec le gombo. Souvent, les gens sont un peu... les personnes n'aiment pas forcément le côté gluant. Et donc, dans ces cas-là, je recommande de le couper, de l'émincer très finement et de l'arroser de jus de citron. Et du coup, quand vous le faites sauter ou que vous le faites cuire, il n'a pas ce côté gluant. Ou alors, comme je le disais en début d'émission, de le rôtir. Et c'est vrai que là, quand vous faites rôtir, vous les laissez entiers et vous le mettez sur des petites brochettes et vous les faites rôtir avec un peu d'huile infusée et un peu de mélange d'épices comme je le recommande dans mon e-book. Et là, c'est exceptionnel. Ils sont croustillants et on n'a pas du tout, du coup, ce côté gluant.
On peut les faire farcir aussi. Les Indiens aiment bien les faire farcir.
Et en beignet.
Mais de toute façon, ce gombo, il est un peu incroyable. Saviez-vous aussi que les enfants aimaient bien le gombo ? Est-ce que vous servez des soupes kanja à vos enfants ?
Moi, le mien, il est pas fan.
Parce que celui de Stella, que nous avions rencontré à RFI, Stella Tiende Bayogo, qui est médecin à Paris, qui est sénégalaise, elle a donc servi de la soupe kanja à son bébé, qui a beaucoup apprécié.
Une recette peut-être pour mon bébé, que j'ai testé, il a 8 mois, et il n'y a pas longtemps, j'ai testé un mini soupe kanja, donc la soupe de combo. Donc j'ai mis un peu d'oignon, un peu de tomate, juste. J'ai coupé les gombos et je les ai fait revenir, et je les ai mixés, tout simplement. Et j'ai mélangé avec de la banane plantain que j'avais mixée et bouillie auparavant. Et le tout, ça a fait une espèce de soupe kanja gombo, banane plantain. Et il a adoré.
C'est le cas, pas de votre aîné, vous m'avez dit, mais de votre bébé.
Oui, mon bébé adore ça il également, la sauce gombo. Enfin, lui, de toute façon, il aime toutes les sauces africaines. Mais oui, il a beaucoup aimé la sauce gombo, pareil, avec du plantain.
Quand on a des enfants, forcément, on se pose la question, est-ce qu'ils vont pas être carencés en protéines, en quoi que ce soit, si on enlève dans la cuisine végane ? C'est pas une préoccupation, selon vous ?
Non, si on y intègre les super aliments, et on a énormément, en fait, dans le terroir africain, caribéen, il y a énormément de super aliments. Là, justement, je vous ai ramené un de mes must-have vraiment phares, qui est la moringa. Moi, la moringa, je l'utilise sous toutes ses formes. Je l'achète frais.
Ça, c'est votre...
C'est mon must-have.
Votre ingrédient.
Ah oui, vraiment, tous les jours, j'en consomme. Soit sous forme de tisane. Donc, j'en ai ramené de mon arbre qui est sur le terrain familial à Marie-Galante, des feuilles séchées. Donc, ma mère ramasse les feuilles sur l'arbre et puis elle les fait sécher au soleil et puis elle me les ramène, du coup, séchées, c'est très léger. Donc, je le consomme soit en tisane, soit je les achète frais une fois par semaine. J'en reçois dans une petite épicerie indienne près de chez moi. Donc, j'achète un bouquet de feuilles de moringa fraîches et je fais des sauces à base de feuilles de moringa. Et là, ça pose aucun problème, surtout si c'est mélangé avec, comme on disait, les feuilles de patate douce ou d'épinards. Ça cuit très, très vite. Et je la consomme également en poudre. Et donc là, je la cache un peu partout. Donc dans les smoothies, dans les biscuits, par exemple, les macarons coco que je vous ai ramenés, vous auriez pu en mettre.
Oui, parce qu'on vous mettra
mettra quelques photos sur la page du Goudin. Enfin, je ne sais pas, parce que c'est pas très gentil de faire ça. Parce que Ayaba est venue avec plusieurs
gâteaux. Et du coup, oui, je cache de la moringa partout parce que c'est un super aliment, donc africain, qu'on retrouve également en Inde et dans la Caraïbe, qui est très riche en fer végétal et qui détient même plus de fer que dans une portion d'épinards ou dans une portion de viande rouge. C'est également riche en calcium végétal. Donc, si vous y intégrer les super aliments comme le baobab est également riche en calcium végétal et en fer, la poudre de bissap, donc l'hibiscus qu'on appelle également groseille pays dans la Caraïbe, qui elle est très riche en antioxydants et en vitamine C, champion de la vitamine C.
Faites un smoothie, n'est-ce pas?
Oui, un smoothie. Il n'y a pas de raison en fait d'avoir des carences si on y introduit en fait des super aliments et que vraiment aussi on consomme encore une fois des produits de saison qui de façon raisonnée.
Oui, c'est ça, peut-être raisonnable. C'est quand même à la base de tout. Vous avez une recette des Energy Balls. Alors, on est dans l'anglais. On va quand même les boules d'énergie, pleines d'énergie. Vous nous donnerez la recette.
Allez dedans. La recette, oui, je peux vous la donner. Celle qui est dans le e-book, je la garde.
Donc, le livre digital dont on mettra le lien, bien sûr, sur la page du Goût du Monde.
Tout à fait. Alors, je la laisse pour ceux qui iront à télécharger le livre, celle du e-book. Pas celle du e-book, en fait, c'est ma recette de base, sauf que je l'ai faite, en plus d'être sans gluten et vegan, elle est sans noix. Et d'accord. C'est vrai que c'est difficile de trouver des... déjà, en général, on trouve difficilement des energy balls qui sont avec des super aliments africains. Mais pour le coup, celle-ci est sans noix. Elle est faite avec du souché, qui est un de mes gros chouchous du moment, qui est un tubercule africain et qu'on appelle également l'amande de terre, qui pousse aussi en Espagne, au Maroc, et qui pousse énormément en Afrique de l'Ouest, mais qui tend à pas disparaître, mais à être de moins en moins consommé.
N'en fait-on pas aussi du lait de
oui,
souché?
Oui, le lait de souché, c'est exceptionnel.
Ne dit-on pas que ce sont des noix de tigre aussi?
Les noix tigrées, le souché, les noix tigrées, la tiger nut, exactement, plein de bienfaits.
C'est ça, quel goût?
Alors, c'est un goût.
Parce que baobab plutôt acidulé, hibiscus acidulé également.
Alors, la tiger nut, enfin le souchet, les gens l'aiment beaucoup parce que c'est aussi ça aide beaucoup les personnes qui veulent éviter de grignoter. C'est un anti-grignotage. Comme ce n'est pas une noix, ce n'est pas un oléagineux, c'est un tubercule. Ce n'est pas aussi gras que les amandes ou que des noix de cajou, donc on peut vraiment les consommer sans avoir à s'inquiéter pour sa ligne. Et donc, c'est un goût qui est situé entre l'amande et la noix de coco séchée. Vous voyez, quand la noix de coco, vous la croquez et que vous
je ne la consomme que séchée, grillée, avec un peu de caramel.
Donc c'est vraiment ce goût, cet intermédiaire entre l'amande et la noix de coco. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que son petit surnom, c'est amande de terre. Et c'est exceptionnel. Moi, j'en fais de la crème. Là, j'ai fait ma bûche des fins d'année. J'ai fait une crème de souché au zeste de citron, puis une autre couche avec de la mangue. Crème de souché à la mangue, c'est exceptionnel. J'en fais du yaourt maintenant. J'en fais aussi des crèmes à tartiner. J'en fais du lait. Et vous pouvez
donc
également
le souché. À découvrir.
À
absolument.
Découvrir et en farine. Et là, aujourd'hui, je vous en ai mis dans les gâteaux.
Il faut quand même qu'on parle avant de se séparer, parce que c'est déjà la fin, c'est ça qui est terrible, de vos adaquats. Parce que je ne pense pas me tromper, ce sont bien ces sablés-là.
Oui, c'est ça.
Dans lesquels il y a, attention, tenez-vous bien, pâte d'arachide, sirop d'agavou, coco, maïs grillé. Là, j'ai donné juste 3 des ingrédients.
Et après, il y a le gingembre, forcément. Il y a le girofle moulu. Il y a le piment. Le piment, c'est facultatif. Si vous voulez que les enfants puissent en profiter, vous n'êtes pas obligé d'en mettre là. Je ne savais pas si vous aviez le palais résistant. Donc, j'ai opté pour du piment de la Jamaïque, qui est un peu plus doux que le piment que les piments oiseaux séchés d'Afrique. Et du coup, farine de maïs, oui, grillée. Vous l'avez dit, c'est ça. Hein, c'est très simple. Un peu de sel, un peu de sirop. Gingembre, clou de girofle, et donc moi ce que j'y rajoute c'est des petits morceaux de gingembre confit. Donc on tombe dessus là sur quand ça s'effrite dans la bouche, c'est franchement pas mal.
Pour terminer le dîner, je vous assure, mais je pense qu'en apéritif aussi il y a un peu de tout cette cuisine.
Oui,
vegan.
Puis en hiver c'est les adaquats, ça réchauffe et c'est pas plus mal parce qu'on a tendance à avoir mal à la gorge.
En toute saison, j'ai envie de dire. Ah, bah, vous êtes venue avec un ustensile aussi qui est beau. C'est une alors j'imagine qu'elle a un nom, c'est une sorte de cuillère en bois, une spatule en bois.
Une grosse cuillère en bois, c'est la cuillère avec laquelle on prépare le foufou. La grosse cuillère en bois que j'ai achetée sur un marché au Togo et à laquelle j'y tiens énormément parce que c'est beaucoup de souvenirs. Et en fait, elle m'a accompagnée pendant mon voyage de 3 mois en Afrique et j'ai cuisiné avec du coup ces femmes qui ont eu l'honneur de m'apprendre certaines recettes avec cette cuillère.
Quelle chance! Quelle chance. Bah, nous aussi, on a beaucoup de chance de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à Yaba Galba de ce partage. On peut bien sûr vous suivre sur les réseaux sociaux, sur votre chaîne Dolotouch également, Dolotouch TV. Les liens seront sur la page du Goût du Monde sur RFI.fr. Merci à vous tous d'avoir partagé vos recettes de niébé, cornille et autres coquilles. Vous pourrez les lire et en écouter également sur la page du Goût du Monde sur RFI.fr. On attend les photos des plats que vous aurez partagés. Merci beaucoup à Cécile Bonissi qui a réalisé cette émission. Vous pouvez la partager, la podcaster à l'envie, l'aimer aussi. Je vous donne rendez-vous quant à moi la semaine prochaine, même table, même heure. D'ici là, prenez bien soin de vous. Tout de suite, le journal sur RFI.